Aujourd'hui, Louise, à la une de la science, on va parler donc de la mâchoire d'un enfant qui n'avait, selon les chercheurs, même pas 7 ans et donc pas encore ses dents définitives.
Oui, et pourtant, il a retenu l'attention d'une équipe de chercheurs internationaux qui a étudié sa mâchoire supérieure fossilisée. Alors, elle a été retrouvée en Chine il y a 100 000 ou 240 000 ans, on ne sait pas très bien. Alors, comme vous en doutez, Mathieu, ce n'est pas vraiment cette mâchoire de cet enfant en particulier qui a intéressé les scientifiques, mais plutôt ce qu'elle a à dire de l'histoire de vie de l'homme, c'est-à-dire de l'évolution du rythme de développement de l'homme à travers les âges, rien que ça.
C'est pas mal.
Oui, l'étude est publiée dans la revue Science Advances et Paul Taforo, un des co-auteurs de l'étude, va tout nous dire. On le retrouve tout de suite en duplex depuis Grenoble. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléo-anthropologue, spécialiste du développement dentaire des hominidés. Vous êtes aussi scientifique de lignes de lumière. Alors dites-nous pourquoi vous avez étudié les dents de ce fossile. Qu'est-ce que vous avez cherché à savoir sur lui ?
Alors en fait, on a étudié les dents sur ce spécimen parce que les dents, un peu comme les arbres, enregistrent leur propre développement. La grosse différence avec les arbres, c'est que les arbres le font tous les ans, alors que dans nos dents, on enregistre chaque jour de développement. Et donc, si on peut accéder à ce qui est enregistré dans les dents d'un fossile, eh bien, on peut avoir énormément d'informations sur la façon dont cet individu s'est développé, la vitesse à laquelle il a grandi. Et on peut comparer tout ça avec l'homme moderne, évidemment, mais avec d'autres fossiles qu'on connaît par ailleurs.
Et ces dents, vous avez dû les couper en pratique ou vous avez adopté une autre technique ?
Alors, pendant des décennies, la seule façon d'accéder à l'enregistrement dans les dents, c'était en effet de les couper. Mais depuis à peu près 2004, on arrive à le faire sans les couper grâce au synchrotron de Grenoble, qui est un accélérateur de particules qui produit des rayons X. Et on utilise ces rayons X qui sont très particuliers pour réussir à voir à l'intérieur des spécimens sans avoir à les couper physiquement. Donc on fait ce qu'on appelle des coupes virtuelles. On voit, nous, des coupes sur les écrans, mais les spécimens eux-mêmes n'ont pas été coupés.
Et alors, il avait quel âge, cet enfant chinois, à peu près ?
Alors, il avait à peu près 6 ans et demi. Je me rappelle plus par cœur de son âge précis, parce que la technique, quand on compte dans les dents, on peut être précis à quelques semaines près. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est pas son âge exact, c'est plutôt le fait que le niveau de développement de toutes les dents qu'il a, c'est-à-dire que on est en train de parler d'un enfant, donc normalement il aurait dû avoir les dents de lait. Alors les dents de lait ont été perdues sur le fossile, malheureusement, enfin elles n'ont pas été trouvées en même temps que le reste. On trouve souvent que des morceaux comme ça. Mais par contre, à l'intérieur de l'os, il restait les germes dentaires. Et quand on regarde le niveau de développement des dents, eh bien on voit que la première molaire est finie. On voit que la première incisive, la couronne est finie, mais la racine n'est pas finie. La canine, c'est pareil, la couronne est finie, mais la racine commence à peine. Et tout ça, si on compare à un homme moderne, eh bien, ça donnerait également 6 ans et demi. Et c'est ça qui nous a vraiment intéressé, c'est-à-dire que l'âge mesuré et l'âge estimé par rapport à des standards modernes est le même. Et ça, c'est un peu une surprise sur un individu qui est aussi vieux.
Et pourquoi c'est aussi intéressant de voir si cet enfant se développe au même rythme qu'un enfant de 2018 ?
2019.
Alors c'est 2019.
Enfin, 2019. Alors, il n'y a pas une grande différence.
On n'est pas
entre
un enfant, je crois, avec ces échelles.
2019.
Oui, c'est vrai, je vous l'accorde.
Pourquoi il faut savoir ça ?
Alors en fait, il faut savoir que l'homme moderne, c'est le primate qui a le développement le plus lent. On dit qu'on a l'histoire de vie la plus ralentie de tous les primates. C'est-à-dire qu'on est enfant très longtemps, on devient adulte très tard, et on va vivre très longtemps par rapport à tout ce qu'on connaît dans les autres grands singes. Et l'une des grandes questions en paléoanthropologie, c'est à quel moment ce système très ralenti se met en place. Alors on sait que quand on est du côté des australopithèques, donc il y a plusieurs millions d'années, le développement ressemble plus à celui d'un chimpanzé, c'est-à-dire à peu près 2 fois plus rapide que ce qu'on a aujourd'hui chez l'homme moderne. Et on sait par exemple que le néandertalien, qui est disparu il y a quand même très peu de temps, eh bien les néandertaliens étaient un tout petit peu plus rapides que l'homme moderne. Et donc là, on est dans un cas d'un fossile qui est un peu particulier, parce que c'est ce qu'on appelle un homme archaïque. Alors on n'est pas tout à fait sûr si c'est un homo sapiens ancien qui a encore des caractères primitifs, si c'est quelque chose qui serait, par exemple, un denisovien, donc une autre forme humaine qu'on connaissait à l'époque. Enfin, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais l'âge de ce fossile, donc entre 100 000 et 240 000 ans, fait qu'il est vraiment dans la fenêtre qui nous intéresse pour savoir si on a déjà atteint un niveau aussi lent que l'homme moderne ou si on est encore sur quelque chose de plus rapide.
Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à atteindre plus de précision ? Parce que là, vous nous dites, cet enfant aurait eu 6 ans et demi, donc ça, c'est très précis. En revanche, l'âge du fossile, lui, il est beaucoup moins.
Mais parce que dans le cas du développement dentaire, comme je vous disais, on peut quasiment compter chaque jour. Donc c'est très très précis. Mm-hmm. Mais quand on date un fossile, bah c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. On peut utiliser des systèmes basés sur des décroissances radioactives, on peut utiliser les inversions du champ magnétique terrestre, on peut utiliser tous les autres fossiles qu'on va trouver en même temps. Alors généralement, on essaie d'avoir le maximum d'informations, de tout utiliser en même temps pour avoir la plus grande précision. Mais dans le cas de ces fossiles-là, malheureusement, certaines des techniques n'ont pas donné de résultats suffisamment précis. Et donc, les techniques qui ont donné des informations ont donné en gros deux périodes possibles, une entre 100 et 140 000 et l'autre qui, si je me rappelle bien, entre 180 et 240 000. Et on peut pas être tout à fait sûr de la période. C'est pour ça qu'on considère qu'on est entre 100 et 240 000.
Donc on parle d'homme archaïque, hein, puisqu'on n'a pas l'espèce exacte de ce spécimen.
Donc il y a plusieurs interprétations possibles, oui.
Excusez-moi. Est-ce que malgré ces imprécisions, ça nous éclaire quand même sur ce fameux point d'inflexion où les hommes ont commencé à évoluer moins vite? Est-ce que ça nous éclaire un peu sur la grande histoire de l'évolution humaine?
Alors, ça nous éclaire pas directement sur la grande histoire, ça nous éclaire sur l'histoire d'Homo sapiens. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a des fossiles au Maroc qui sont plus vieux que ceux-là, qui viennent du gisement de Hiroud. Et là, on a déjà pu faire le développement dentaire d'un enfant qui est un peu pareil, c'est-à-dire avec des caractères morphologiques primitifs, mais sur lequel on a pu montrer un développement dentaire exactement similaire à l'homme moderne. Mais par contre, c'est la première fois qu'on trouve quelque chose d'aussi ancien en Asie. Or, là où ça nous pose beaucoup de questions, c'est sur les scénarios de sortie d'Afrique de l'homme moderne. Mmh. Parce que le consensus habituel, c'est l'homme moderne évolue en Afrique et vers 120 000 ans, à peu près, il sort d'Afrique et il va coloniser l'Europe et l'Asie en remplaçant les populations humaines qui étaient déjà en place. Donc les Néandertaliens d'un côté, les Denisoviens de l'autre. Et ben là, ce fossile, en fonction de la datation, si jamais c'est 100 000, on pourrait encore considérer que c'est un Homo sapiens, donc la première vague de peuplement de la sortie d'Afrique. S'il est autour de 240 000, ça change beaucoup de choses. Parce que ça veut dire que c'est peut-être pas un homme moderne, mais que c'est un Denisovien, ou que la sortie d'Afrique de l'homme moderne est plus ancienne que ce qu'on pensait. C'est en ce sens que, voilà, ça nous montre surtout la grande complexité de l'histoire récente de notre espèce.
Oui. Mais c'est passionnant, et tout ça grâce à une dent, hein, en l'occurrence. Merci beaucoup,
et une mâchoire. On a un peu plus qu'une dent.
Oui, absolument. Merci beaucoup, Paul Taforon, en tout cas, pour ces explications. Et puis, Louise, on se retrouve demain avec une nouvelle Une de la Science.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, difficile d'imaginer Saturne sans ses anneaux emblématiques. Et pourtant, il serait apparu très récemment, il y a 10 à 100 millions d'années. Par comparaison, Saturne, elle, s'est formée il y a 4 milliards et demi d'années au début du système solaire. La planète a donc vécu pendant la quasi-totalité de son existence sans ses anneaux. Ce sont les dernières mesures de la sonde Cassini qui ont permis aux chercheurs de faire cette découverte. Leurs résultats viennent d'être publiés dans Science. Les planétologues avaient des indices de l'âge relativement jeune des anneaux, mais l'âge exact restait l'une des grandes énigmes du système solaire. La preuve de la nocivité du tabac pour l'organisme n'est plus à faire, mais des scientifiques viennent pour la première fois de quantifier les dégâts de la cigarette sur le vieillissement. Leurs conclusions sont à retrouver dans la revue Scientific Reports. En utilisant des modèles d'estimation de l'âge biologique basés sur des marqueurs sanguins et des techniques d'intelligence artificielle, ils ont constaté que le sang d'un fumeur et d'un non-fumeur ne vieillissait pas du tout de la même manière. Les hommes fumeurs vieillissent en moyenne une fois et demie plus vite que les non-fumeurs, et c'est encore pire pour les fumeuses qui, elles, voient leur vitesse de vieillissement être multipliée par deux. Et puis le dernier caribou des montagnes connu pour habiter les États-Unis vient d'être retiré de son habitat naturel et placé en captivité. La nouvelle n'est cependant pas aussi triste qu'il n'y paraît. L'animal est en voie d'extinction et c'est donc une équipe de biologistes canadiens qui a capturé le caribou femelle. Ils l'ont ensuite transféré dans un enclos en Colombie-Britannique et dans environ un mois, les scientifiques prévoient de relâcher le caribou ainsi que deux autres animaux en voie de disparition, donc dans la nature, dans un troupeau canadien plus grand et plus stable.